Elles s'appellent Wonder Woman, Captain Marvel ou Black Widow. Elles sont des super-héroïnes de films. Et puis avant elles, on peut nommer le sergent Ripley dans Alien ou Amélie Poulain, elles aussi héroïnes à leur façon, tout comme Madame Bovary ou la princesse de Clèves l'ont été dans les romans. Des personnages femmes, des personnages centrales d'une fiction, ça arrive, ce n'est pas rare, mais si on se met à les comparer au nombre de héros hommes, alors là, on se rend compte qu'il y a comme un fossé que Wonder Woman toute seule aura du mal à combler, aussi balèze soit-elle. Et même si aujourd'hui elle semble un peu plus nombreuse à l'écran, on peut quand même s'interroger. Est-ce le signe d'un cinéma qui prend enfin un tournant plus féminin, ou est-ce une opération rentable pour l'industrie ? Le temps des héroïnes est-il arrivé ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous aussi. Intervenez sur l'appli ou le site de France Inter.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal. Et c'est Libération qu'on feuillette aujourd'hui avec vous, Alexandra Schwarzbrod, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction. Qu'est-ce qui fait débat dans vos pages en ce mardi 3 août, Alexandra ?
Un super papier de Myrène Garay-Cochea sur les skateuses aux Jeux Olympiques. Vous savez que le skateboard est un de ces nouveaux sports qui a été inscrit au programme de ces JO, avec le basket à 3 contre 3, avec le surf. C'est donc un sport très jeune. Et comme c'est un sport très jeune, les sportives qui le pratiquent sont également très jeunes. La semaine dernière, le 26 juillet, sur les marches du podium de Skateboard Street, parce qu'il y a deux type de compétition, il y a le skateboard street et le skateboard park. Le skateboard street, c'est une compétition qui se déroule dans un espace urbain, comme on a reconstitué un espace urbain. Et là, figurez-vous que la médaille d'or, la jeune fille qui a remporté la médaille d'or avait 13 ans. Et celle qui a remporté la médaille d'argent avait également 13 ans. Et donc, ce sont vraiment des ados. Et la nuit prochaine, il va y avoir donc une compétition de skateboard park. Donc là, ça se déroule dans une espèce de cuvette en béton, vous savez, comme une piscine qui n'aurait pas d'eau. Et là, à nouveau, une des concurrentes, la favorite, qui s'appelle Sky Brown, a 12 ans, vous rendez compte. Elle s'est lancée sur une planche à roulettes. Elle avait 5 ans. Donc, c'est très intéressant parce que ça pose plein de questions sur ce sport, avec plein d'avantages. Hein. Ce sont des jeunes ados qui sont extrêmement entraînés depuis toute petite. Mais en même temps, on peut se demander, justement, on vient de parler de Simone Biles qui vient de remporter les médailles de bronze. Mais Simone Biles, il faut se souvenir que c'est quelqu'un qui a fait un gros burn-out. Et donc, ces ados qui ont une pression dingue sur les épaules, non seulement sportive, mais aussi en termes de sponsoring, hein, parce qu'il faut qu'elles aient des sponsors, et ça, en général, ce sont leurs parents qui gèrent ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que, dans quelques années, ces jeunes ados ne risquent pas de péter les plombs, en gros, de faire un gros burn-out et de craquer, tout simplement, comme plusieurs sportives l'ont fait ces dernières semaines?
Alors, la benjamine de la délégation française, qui est d'ailleurs la benjamine de toute la délégation française, hein,
c'est Madeleine Larcheron.
Elle a 15 ans. Et comment on peut expliquer que, en skateboard féminin notamment, les meilleures places soient raflées par des ados qui, vous l'expliquez dans votre article, ont laissé au pied du podium les plus âgés, qu'on attendait plutôt d'ailleurs sur le podium?
Parce que le skate est un sport très très précoce, peut-être c'est un peu comme le patinage artistique où vous savez où des très jeunes sont au top. Voilà, comme c'est un sport jeune qui est en pleine structuration, il n'a pas encore eu le temps, si vous voulez, de développer des participants âgés. Et puis c'est aussi un sport de rue, le skate, hein, où donc qui est pratiqué essentiellement par des ados, et un sport où la culture du haut niveau n'est pas encore installée. Il faut se souvenir que les premiers championnats du monde de skateboard datent de 2018. Vous vous rendez compte, c'est très très récent. Donc c'est un sport qui n'a pas encore eu le temps de mûrir, si l'on peut dire. C'est-à-dire que ces pratiquants sont très jeunes et ça va être très intéressant de voir au fil des années, justement, si cette tendance va se poursuivre, c'est-à-dire si les concurrents vont continuer à être très jeunes, des ados, ou bien si au fil des années et de la maturité de ce sport, eh bien, on va voir des concurrents vieillir avec ce sport, c'est-à-dire atteindre un âge, voilà, une vingtaine d'années comme la moyenne des autres sports pratiqués au JO.
Alors, ça pose aussi la question des parents qui poussent leurs enfants à pratiquer des activités. Vous avez commencé à l'esquisser, mais d'abord, ils gèrent leur compte Instagram, ce qui est quand même un peu étrange. Et par ailleurs, ce sont eux qui ont mis leurs enfants sur des skates quand ils avaient 4, 5, 6 ans.
Ben oui, on a interviewé dans cet article Alain Nègre, qui est responsable de la performance au sein de la Fédération française de roller et de skateboard, et lui, il nous dit très clairement, il dit à 9 ou 10 ans, un enfant a envie de skater, les compétitions, c'est le projet de ses proches. Donc ce sont bien les proches qui, voyant peut-être le talent ou la passion de leurs enfants pour ce sport, qui à un moment se mettent en tête de les faire concourir, et du coup, qui organisent tout, et notamment les réseaux sociaux et leur participation sur les réseaux sociaux. Et c'est un moyen de pression supplémentaire, parce que le jeune qui n'arrivera pas à attirer suffisamment de sponsors, aura peut-être l'impression d'être un loser, et du coup, ça peut le casser à vie. Donc ça pose vraiment plein de questions intéressantes et qui sont vraiment dans l'air du temps, quand on voit à quel point des sportifs peuvent, à un moment ou à un autre, faire un burn-out.
Et l'une des plus jeunes, la médaille d'argent, vous l'avez dit, la brésilienne Raissa Lille, 6 millions de vues quand même, 6,5 millions de vues sur une de ses vidéos, adore se déguiser en Wonder Woman, ce qui nous permet de faire une transition pour notre sujet du jour consacré aux super-héroïnes. Merci Alexandra Schwarzbrod, le revers de la médaille, donc, si on peut dire ça comme ça, de ces skateuses. Roulez jeunesse, c'est le titre que vous avez donné à cet article, c'est à lire dans Libération de ce mardi 3 août. À la semaine prochaine.
Diane, ce ne sont pas les combats qui font les héros.
Et si je vous promets d'être prudente? Rien qu'un bouclier.
Diane, prends garde à toi dans le monde des hommes.
Wonder Woman et son célèbre lasso qui attache les hommes pour leur faire dire la vérité, extrait de la série télé diffusée entre 1975 et 1979 pour commencer cette émission. Le temps des héroïnes est-il arrivé avec trois invités? Mélanie Boissonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en études cinématographiques à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et co-autrice de ce livre, ce gros et beau livre héroïne de Madame Bovary à Wonder Woman, justement. Sophie Bonadet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste, chercheuse spécialiste des super-héroïnes, des questions de genre et de stéréotypes masculins et féminins dans les œuvres de super-héros. Et puis Brigitte Rollet, bonjour.
Bonjour.
Professeure à Sciences Po, spécialiste du cinéma et autrice de « Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi ». C'était aux éditions Belin. Alors merci à toutes les trois d'être avec nous en direct aujourd'hui. J'ai envie de commencer par un petit quiz pour démarrer cette émission. Alors Sophie Bonadet, est-ce que vous êtes plutôt Wonder Woman ou Captain Marvel?
Alors plutôt Wonder Woman, parce qu'en fait je suis plus DC Comics que Marvel. Voilà.
Et vous, Mélanie Boissonneau?
Wonder Woman aussi, surtout Linda Carter quand même.
Linda Carter qui joue Wonder Woman dans la série télé de 1975 à 1979. Exactement. Dont on vient d'entendre un extrait. Et vous, Brigitte Rollet?
Je dirais la même chose.
Bon, 100% Wonder Woman. Allez, un autre. Voilà. Buffy ou Amélie Poulain?
Alors, Buffy à 100%. Buffy, parce que ça a été ma série d'ado.
Sophie Bonadet, Buffy. Mélanie Boissonneau?
Je vais pas être originale parce que c'était aussi ma série d'ado. Donc, Buffy, carrément.
Brigitte Rollet?
Moi, je n'ai pas le même âge, donc ça n'a pas été ma série. Ma série d'ado. Entre les deux, donc je connais mieux Amélie. Mais de là avoir un goût particulier pour l'un ou l'autre, je ne saurais pas.
Vous avez le droit aussi de ne pas choisir. C'est aussi une possibilité. Après tout, on n'est pas obligé de faire des choix. Et on fait un petit dernier. Allez, Cendrillon ou Mortel Adèle? Alors là, Sophie Bonadet.
Pas d'avis.
Joker. Brigitte Rollet?
pas d'avis non plus.
Et Mélanie Boissonneau?
Ah, moi je suis 100% Mortal Adèle. J'adore Mortal Adèle, je suis une grande fan.
Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais lu, c'est un personnage de bande dessinée jeunesse qui fédère autant les garçons que les filles et met en avant une petite fille. Alors à l'opposé évidemment des clichés, à l'opposé de Martine, on peut dire. Hein. Elle est insupportable, c'est une peste très attachante, attachiante comme disent les jeunes aujourd'hui, et qui se moque des petites filles qui veulent devenir des princesses. Et ça c'est important pour vous, Mélanie Boissonneau. Vous lui consacrez d'ailleurs dans votre livre un article.
Ah oui, Mortal Adèle, c'est vraiment une héroïne pour enfants et aussi pour les grands, parce que moi je la connais grâce à ma fille de 10 ans, mais j'adore le lire aussi. Et c'est une, voilà, ses aventures sont vraiment, elle a des punchlines très très fortes qui servent clairement sur la cour de récré quand elle dit, on la qualifie de garçon manqué, qu'elle répond, non, je suis une fille, tout ce qu'il y a de plus réussi. Voilà, elle est, elle envoie comme ça des petites piques et elle se défend. Comme une peste adorable qu'elle est.
On entend les oiseaux dans votre jardin, on a l'impression d'être un petit peu avec vous à la campagne, c'est formidable la radio en direct. Pourquoi c'est important de trouver des figures féminines dans lesquelles les garçons comme les filles se retrouvent, Sophie Bonnadet ?
Pourquoi c'est important ? De toute façon, c'est qu'on grandit forcément avec des modèles qui nous viennent de la culture, et c'est vrai que quand on a une culture qui est majoritairement remplie de personnages qui sont des hommes, blancs, hétérosexuels, il y a plein de choses qui viennent derrière, bah forcément il y a des gens qui vont moins se retrouver dedans. En fait, l'important c'est d'avoir des personnages variés. En plus, ça nous apprend aussi, je pense, les filles savent très bien se projeter dans des garçons pour vivre une aventure. Je suis pas sûre que les garçons le fassent aussi bien parce qu'ils ont pas à le faire, en fait, ils ont assez de représentants masculins, donc c'est bien en fait pour tout le monde d'apprendre à se projeter dans des personnes qui ne vous ressemblent pas, en fait.
Ils n'ont pas à le faire, ou peut-être ne peuvent-ils pas le faire, puisqu'il y a peu de représentantes féminines.
Bah c'est ça.
Brigitte Rollet.
Oui, enfin moi je ne sais pas si je dirais qu'il y en a peu, parce qu'il y en a toujours eu. Après, c'est le type de personnage. J'ai relu là récemment les mots de Sartre. Et donc Sartre parle de son enfance quand il a... c'est il y a un siècle, en fait, c'est 1920. Et il raconte tous les feuilletons, enfin les petits livres, les illustrés qu'il achète, et enfin qu'on achète pour lui, et tous les personnages qui se trouvent dans ces illustrés. Et en lisant ça, alors lui il se projette évidemment dans toute une série d'aventures, et je me disais, est-ce que les filles avaient les mêmes choses ? En fait, les filles avaient des illustrés aussi, mais c'était un type totalement différent. Donc c'est pas tant qu'il n'y a pas de petites filles ou que les petites filles n'ont pas leurs publications ou leurs héroïnes, c'est juste qu'elles sont peut-être un peu moins excitantes. Vous avez cité Martine, bon, on va pas faire du Martine bashing, mais y avait quand même pour les petites filles des héroïnes. Mais est-ce qu'on a envie de s'identifier à ces héroïnes-là ? C'est plus ça. Je sais pas si... Après, il faut compter, mais moi, je fais pas ce genre de comptabilité, mais il y a des héroïnes. Après... Qu'est-ce qu'on met derrière héroïne ? Est-ce que c'est juste le personnage principal ou est-ce que c'est quelqu'un qui donne envie
de s'identifier
à elle ?
Alors pour revenir sur la création de Wonder Woman, puisque vous parlez de modèle, elle est inventée pendant la guerre en 1941 pour montrer une femme forte à toutes les Américaines qui tiennent la baraque, si on peut dire cela comme ça, pendant que les hommes sont au front. Mélanie Boissonneau.
Oui. Alors, l'histoire de Wonder Woman, elle est un peu incroyable parce que elle est Wonder, exactement. C'est William Moulton Marston qui est un psychologue et qui est très particulier, qui vivait avec deux femmes de façon, très claire, et qui a inventé le détecteur de mensonges, d'où le fameux lasso de vérité de l'héroïne de Wonder Woman. Et effectivement, lui, son projet, c'était de contrer un peu Batman et Superman qui cartonnaient à l'époque, et Wonder Woman va vraiment avoir cette place-là dans cette trilogie de héros extrêmement importants des années 40. Du tout début des années 40.
Mais elle a été inventée pour donner une sorte de modèle aux femmes pendant la guerre. Pourtant, ce sont les hommes qui s'y sont intéressés plutôt, parce qu'en effet, elle a des lignes plutôt sexy.
Oui, alors ça, c'est un peu les super-héroïnes dans les comics et au cinéma sont toujours super sexy, et globalement, les héroïnes sont en majorité, correspondent, disons, au canon hollywoodien, du glamour, etc. On a très très peu de corps un peu en dehors de la norme hollywoodienne qui émerge, que ce soit dans les comics ou dans les films. Donc effectivement, elle est très sexy, mais elle est aussi très athlétique. surtout au début. Dans les années 40, elle est extrêmement athlétique, ce qu'on a un peu perdu après, mais elle est voilà, elle est très musclée quand même, Wonder Woman, et ça en fait vraiment une femme guerrière très crédible dans les comics. Mmh.
Ce que vous dites, Sophie Bonnadet, c'est que voir des femmes qui se battent à l'écran, ça permet de développer un imaginaire de femmes d'action, et c'est important.
Alors, est-ce que c'est important d'avoir des femmes d'action? C'est important d'avoir
des femmes... De donner ce modèle, en tout cas.
En tout cas, de voir que les femmes peuvent faire comme les hommes, parce qu'en fait, se battre, les femmes savent le faire, c'est pas quelque chose qui leur est... Donc, c'est pas quelque chose dont elles sont incapables, en fait. D'ailleurs, on le voit au JO, il y a plein de femmes qui se battent dans plein de disciplines. Donc, c'est montrer, en fait, que ça existe aussi. Il faut pas qu'il y ait que ça, encore une fois. Mais c'est juste que pendant... Enfin, oui, la plupart des super-héroïnes, elles se battaient pas forcément comme se battaient les hommes. Donc, c'est bien qu'elles le fassent et qu'on commence à les voir au cinéma.
Brigitte Rollet.
Oui, moi je voulais revenir par rapport au contexte de création de Wonder Woman, parce que si on pense aussi à une figure qui a été reprise récemment par les féministes en France et ailleurs, de Rosie la Riveteuse, c'est la femme qui dit qui était l'affiche qui avait été conçue à la même époque, hein, pendant la guerre, pour inciter les femmes à travailler dans les usines. Cette femme qui avait le bras musclé et un petit foulard rouge dans les cheveux, on a cette idée de sortir des constructions traditionnelles du féminin qui ne correspond pas aux attentes à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que on donne à des femmes, ou on suggère des créations différentes pour dépasser justement les obstacles réels ou psychologiques, sociaux, tout ce qu'on veut, qui empêchaient les femmes d'accéder à certains types de métiers. Donc en fait, quand ça arrange la société, que les femmes deviennent des battantes, on est dans une production d'images qui va dans ce sens-là, que ce soit Rosie la Riveteuse ou Wonder Woman. Donc en fait, la question, quand on dit faire comme les hommes, se battre comme les hommes, c'est aussi un petit peu limité, parce que idéalement, ce serait bien aussi que les héroïnes puissent être héroïnes sans nécessairement devoir singer les hommes, ce qui est souvent le cas, je trouve, avec les super-héroïnes. Il faut qu'elles fassent aussi bien que les hommes, alors qu'on pourrait aussi imaginer... Enfin, moi, j'ai grandi plutôt, c'est pas Buffy, mais c'était comme Agnès Jaoui, Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier, c'était pas qu'elle faisait comme les garçons, c'est qu'elle faisait carrément autre chose. On était dans une alternative au modèle et du garçon et de la fille. C'était quelque chose d'un peu inédit par rapport à ce qui existait à la télévision de l'époque.
Alors peut-être pour les jeunes auditeurs, il faut expliquer, jeunes auditeurs et auditrices, que Fifi Brin d'Acier, c'est un roman, c'est l'héroïne d'un roman suédois, oui. qui vit un peu toute seule dans la forêt, qui se débrouille et qui a presque des super pouvoirs. D'ailleurs, parce qu'à un moment, on est capable de voler toute seule avec ses petits poignets, alors que les garçons, eux, en sont incapables. Ils disent même d'ailleurs, non, ne le fais surtout pas, c'est dangereux.
Oui. Et donc, elle passe outre. C'est pour ça que je trouve qu'elle invente ses propres règles, parce que justement, il n'y a pas eu d'équivalent avant. Et ça, pour moi, alors peut-être parce que j'ai grandi avec et que j'étais une grande fan de Fifi Brin d'Acier, comme Agnès Jaoui, mais c'était extraordinaire. C'était comme Claude dans le Club des Cinq, Denis Blyton, pour les gens qui l'ont lu. C'était un féminin alternatif, quoi, par rapport aux autres personnages qu'on nous donnait à consommer, à voir et à apprécier.
Sophie Bonnadet, les super-héroïnes reproduisent finalement le schéma des super-héros, selon vous ?
Alors, il y a toujours une tendance, quand ils les écrivent, des fois, à essayer de les calquer sur des modèles masculins qui existent. Surtout qu'on, par exemple, on va avoir, quand on veut créer un nouveau personnage féminin, souvent on fait juste une féminisation d'un personnage masculin qui existe déjà. Ce qui est déjà un peu le cas de Wonder Woman, qui est légèrement une féminisation de Superman. C'est pas le cas le plus flagrant, mais on a pareil avec Batwoman, Batgirl. Donc, effectivement, ils ont un peu une tendance à faire ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnages qui, par la suite, se sont émancipés et ont fini par être des personnages qu'on peut voir exister en dehors de... Enfin, jamais totalement en dehors de ses références, mais en tout cas exister plus par elles-mêmes. Et on a aussi eu quelques créations originales, typiquement Catwoman, qui arrive dans l'univers de Batman, mais qui n'est pas du tout créée... c'est pas une copie de Batman, quoi. Et c'est un personnage à part qui, aujourd'hui, quand même, est une des... On va dire plus célèbre, peut-être, personnage de comic book qui est passé sur grand écran et en série télé et qui a été adapté dans... Donc ça dépend, mais c'est vrai que souvent, oui, on prend un modèle et à la base, c'est le super-héros masculin.
Alors, il y a cette volonté de sortir de la construction classique, mais quand on regarde ce qu'est Wonder Woman, et je cite la réalisatrice du film, Patty Jenkins, qui dit « La puissance de Wonder Woman réside aussi dans le fait qu'elle soit douce, vulnérable, belle et aimante. » C'est-à-dire qu'à la fois, on veut la Wonder Woman capable de castagne, mais il faut absolument qu'elle garde aussi cette image de femme. Mélanie Boissonneau.
Oui, bah alors c'est toute l'ambiguïté du personnage de Wonder Woman qui est conçu comme quelqu'un aussi qui va faire la paix et qui ne tue pas les ennemis. Donc dans les séries, c'est très flagrant, la série de 1975 avec Linda Carter, où elle essaye toujours de convaincre les méchants de passer du bon côté, mais en même temps, elle dit des phrases très fortes comme « le matriarcat sauvera le monde », donc elle a un projet quand même féministe super explicite. Et je voulais juste revenir par rapport à Wonder Woman, justement, sur l'idée de montrer des femmes guerrières, et pour nuancer aussi, en fait, il ne s'agit pas seulement d'un personnage, mais aussi de la façon dont on va le montrer, et notamment au cinéma, on a eu la chance récemment d'avoir différentes versions de Wonder Woman par différents réalisateurs, mais avec la même actrice et dans le même univers, donc avec les Avengers, avec Justice League, etc. Et Wonder Woman filmée par Patty Jenkins, elle n'est pas tout à fait la même que Wonder Woman filmée par Zack Snyder. Donc,
lui est un homme.
Alors voilà. Alors,
c'est-à-dire qu'il la filme comment ?
Alors, c'est-à-dire que, voilà, Patty Jenkins est une femme, je ne sais pas si c'est ça qui entraîne cela, mais en fait, Zack Snyder a tendance à filmer Wonder Woman vraiment comme une pin-up, hein. Donc il filme beaucoup les fesses quand elle se bat, elle est très sexy, quand elle tombe, elle a des poses un peu à l'anguille, etc. Alors que Patty Jenkins, elle se concentre beaucoup plus sur tous les muscles. Alors elle filme évidemment les cuisses, mais les cuisses en action, en train de combattre, elle filme les mollets, les coudes, les armes, etc. Elle filme, enfin, elle a une façon de filmer Wonder Woman qui est jouée par la même actrice Gal Gadot et qui est dans le même univers, de façon complètement différente. Donc voilà, ça apporte de la nuance aussi grâce au cinéma. La mise en scène, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. Il ne s'agit pas juste du personnage, il faut montrer comment il est fait, comment il est filmé.
Dans son genre, elle est aussi une héroïne, phénomène pop mondial, 10 Grammy Awards, des milliards d'écoutes sur les plateformes à 19 ans seulement. Elle sort son deuxième album, c'est Billie Eilish. Vous êtes bien sur France Inter, il est midi 25 et bel été à vous.
Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but heaven is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get the glass. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but heaven is so strange. I thought that I was special, you made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control for you to keep her in a cage? And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power,
Your Power, extrait du deuxième album de l'américaine Billie Eilish, qui va aussi signer la chanson du prochain James Bond. Et c'est d'ailleurs une femme qui, à terme, va remplacer Daniel Craig. James part à la retraite et passe son matricule à Nomi, jouée par la comédienne Lashana Lynch. James Bond reste, mais 007 se féminise.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
On s'intéresse aujourd'hui aux super-héroïnes, notamment au cinéma, avec Mélanie Boissonneau qui est docteure en études cinématographiques, Sophie Bonadet qui est chercheuse et Brigitte Rollet, professeure à Sciences Po. Mélanie Boissonneau, James Bond joué par une femme, c'est un vrai bouleversement dans le cinéma.
Ah oui, bah là, oui, surtout, je pense que ça a été un long chemin pour que.
Alors, elle ne va pas vraiment jouer James Bond, hein, on l'aura bien compris, mais enfin, elle va jouer celle qui va succéder à James Bond.
C'est-à-dire qu'on part de loin, hein. Daniel, un James Bond blond, c'était déjà la révolution, alors voilà, de changer le héros en héroïne, ça. Bon, on va voir ce que ça donne aussi, hein. Ça va être intéressant de voir s'il y a des. Alors, je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais des James Bond Boy ou quelque chose comme ça va être drôle.
Et est-ce qu'elle va boire des vodka martini?
J'espère bien.
En fumant. Alors maintenant, on ne fume plus au cinéma, mais enfin bon. En tout cas, l'image qu'on a, c'est évidemment ces acteurs comme Roger Moore et Sean Connery qui fumaient leurs cigarettes tout en buvant des cocktails à tire-larigot dans le cinéma. Brigitte Rollet, justement, que James Bond, enfin, qu'il y ait une féminisation de la figure de l'agent secret. Vous qui avez écrit « Femme et cinéma, sois belle et tais-toi », il va falloir peut-être revoir le titre en fin de votre ouvrage, non ?
Ben je ne sais pas, parce qu'en fait, même si on voit plus de femmes, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles parlent plus. Et le tais-toi, il est vraiment... il était intéressant dans le film... documentaire de Delphine Seyrig, mais je pense qu'il reste toujours d'actualité. Les calculs, là encore, qui ont été faits par d'autres sur le temps de parole, y compris des héroïnes, est moins important que celui des héros, même quand elles sont les personnages principaux. Donc en fait, le tais-toi, je pense qu'il va rester. Le sois belle aussi, parce que ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est que ces super héroïnes, alors James Bond, c'est encore autre chose, mais ces super héroïnes, il faut qu'elle plaise à un public masculin avant tout. En fait, quand on féminise, et c'est le cas pour James Bond, il y a une espèce d'opportunisme et d'effet marketing et économique qui fait qu'on veut que des femmes regardent ces films. On l'a vu à la télévision quand Julie Lescaut est arrivée après Navarro, il fallait attirer un public féminin qui regardait pas nécessairement ça. Et donc là, il me semble qu'avec James Bond, qui est quand même surtout regardé par des hommes, il faudrait voir plus précisément la composition du public, on va féminiser un profil, mais comme très souvent, c'est plus qui disait, quand la situation est désespérée, on promeut les femmes, là je dis pas que la situation soit désespérée, mais il n'empêche qu'au cinéma, souvent la féminisation d'un type de personnage ne correspond pas ou n'est pas nécessairement l'indice d'avancée quelle qu'elle soit. C'est plus, un opportunisme du gender washing ou des choses un peu comme ça qui visent à... on fait de la communication, on fait le buzz. Ça fait le buzz, James Bond.
Et vous voulez dire qu'on peut parler de féministe washing, comme on parle de green washing, hein, cette technique qui consiste à avoir un discours, un faux discours écolo pour vendre un produit ?
Ah ben bien sûr. Ah ben on ne voit que ça quand même depuis quelque temps. Et les anglo-saxons parlent même de purple washing, donc par rapport au green washing, le purple, la couleur des suffragettes, là, le violet.
Le violet.
Donc, mais on peut dire aussi feminist washing. Oui, bien sûr, ça marche très
Sophie
bien.
Sophie Bonadet.
Alors qu'il y ait des intérêts économiques et qu'on tente des choses en jouant sur le féminisme, ça c'est sûr. Après, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir s'il n'y a pas des réelles avancées avec ça. Je veux dire, effectivement, est-ce que c'est pour essayer de jouer là-dessus qu'on va faire un film Wonder Woman ? En tout cas, ça permet à une réalisatrice de réaliser Wonder Woman, quand même des films à gros budget qui arrivent dans les mains de femmes, souvent pour... Comme en plus aux États-Unis,
très rare.
Ce qui est rare, et ce qui, en plus, comme aux États-Unis, les questions de représentation sont importantes, on va quand même embaucher d'autres femmes autour de ça. Donc, que ce soit pour des intérêts économiques, qu'au début, qu'il y ait des calculs pour certains, c'est sûr. Est-ce que ça apporte pas quand même certaines choses ? Je pense que sur long terme, ça peut aussi apporter des choses pour les gens qui regardent et les gens qui travaillent dans l'industrie.
Alors, rare aussi, mais puisque vous parlez de réalisatrice femme, évidemment, on pense à Julia Ducournau qui vient d'avoir la Palme d'Or à Cannes. La deuxième fois qu'une femme est consacrée après Jane Campion, depuis qu'on distribue des Palmes d'Or, c'est-à-dire depuis 1951, ça fait 82 Palmes d'Or distribuées et deux seulement aux femmes. Mélanie Boissonneau.
Oui, puis alors en plus Jane Campion l'a partagé avec Jane Kay pour Adieu ma concubine, donc elle a pas eu une demi palme d'or, mais disons qu'elle l'a pas eu à elle toute seule. Voilà, donc c'est la première palme à une seule réalisatrice. Et oui, alors ce qui est intéressant avec Julia Ducournau, c'est aussi que ça me fait penser au cinéma d'horreur, au cinéma fantastique, qui pour le coup est très très intéressant par rapport à la représentation des femmes. Et puisque la majorité des personnages dans les films d'horreur, alors qu'on pourrait penser que c'est un genre qui s'adresse peut-être plutôt aux hommes, mais en fait on sait que c'est plutôt faux, sont des femmes. Les héroïnes de films d'horreur sont des femmes, comme on le voit dans Titan aussi. Donc voilà, ça récompense un genre qui est finalement assez féminin.
Alors, puisque vous parlez de films d'horreur, il y en a une qui a fait une entrée fracassante. C'est là, dans le petit écran, pas le grand écran, mais elle a tout d'une lycéenne américaine. Elle est une lycéenne américaine classique. Elle est blonde, elle est pom-pom girl. Et elle s'appelle Buffy.
Bienvenue sous le soleil de Sunnydale. Qui pourrait imaginer que sous les rues de cette petite ville si paisible se cachent les forces du mal? Nous devons notre seule chance de survie...
À chaque génération, il y a une élue.
...à une lycéenne.
Allez, viens en rythme !
Buffy, tu es la tueuse.
Est-ce que je m'exprime au nom de tous si je dis un ?
Choisi pour se battre.
Je m'appelle Buffy et toi, tu disparais.
Entraînée pour être la meilleure.
Si tu veux, on va t'aider et on pourrait former une bonne équipe.
Élue pour tuer.
Les forces du mal sont dehors. On les attire, tu les tues. Et c'est la fête.
Elle s'appelle Buffy. Et aucun démon... Aucun vampire, aucune créature de l'enfer ne l'arrête.
Je veux être comme les filles de mon âge, j'ai juste envie de sortir.
Buffy contre les vampires. Combattez le mal, ramenez Buffy chez vous.
Si les monstres débarquent, bipez-moi.
Bipez-moi, avec de formidables bruitages pour les coups de pied et les coups de poing. Dans votre livre, Mélanie Boissonneau, je rappelle que vous avez co-écrit « Héroïne de Madame Bovary à Wonder Woman », il y a un long article consacré à Buffy.
Ah bah oui, non, c'était... Alors bon, c'est aussi... J'avoue,
générationnel.
Je me suis fait un peu plaisir aussi, mais parce que ça me paraissait aussi indispensable quand même. Buffy, elle arrive à un moment dans les années 90 où on est... il y a aussi les Spice Girls, il y a Xena, on a Dana Scully, l'héroïne de X-Files aussi. Et Buffy, donc elle est diffusée donc entre 97 et 2003 aux États-Unis. Et l'idée, c'est vraiment... elle s'inscrit dans une filiation, moi je trouve, avec les héroïnes d'horreur aussi, du cinéma d'horreur, parce que c'est une série donc qui se passe dans un univers fantastique, donc comme son nom l'indique, avec des vampires, mais pas seulement, il y a plein d'autres créatures. Et donc elle est, sauf que Buffy physiquement, Sarah Michelle Gellar, elle ressemble à toutes ces filles qui se font tuer dans les films d'horreur. Donc elle est blonde, elle est jolie, elle a une sexualité, etc. Mais sauf que finalement c'est elle l'héroïne, et c'est elle qui va être l'élue, qui va devoir détruire les forces du mal. Donc en soi, Buffy lutte contre les stéréotypes, tout en s'inscrivant dans cette filiation avec le cinéma d'horreur, avec Laurie Strode, l'héroïne d'Halloween, etc.
Il y a d'ailleurs une technique scénaristique que à Hollywood on appelle Woman in Refrigerator, donc la femme dans le frigo. Mm-hmm. C'est en effet cette femme qui doit souffrir et dont la mort, ou en tout cas la souffrance, est un prétexte pour faire avancer l'histoire des hommes. Brigitte Rollet.
Oui, et je voulais juste revenir sur ce que disait Sophie juste avant. C'est pas parce qu'il y a des intentions économiques que ça ne vaut pas la peine que les choses soient faites, et que si elles peuvent contribuer à faire avancer et à faire bouger, moi je suis tout à fait partante. Mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est pas de la philanthropie de la part des studios. C'est juste un effet d'aubaine. Mais pour revenir à cette question du personnage, moi ce qui me frappe, c'est le fait qu'on soit dans un genre, que ce soit les vampires, le film d'horreur ou autre, on est dans un réel qui est un petit peu différent de notre réel, de notre quotidien. Et en fait, ce qui me frappe, c'est la façon dont ces personnages, ces super-héroïnes, ne peuvent intervenir que dans une supra-réalité. Et donc je m'interroge sur le poids. Alors je me réjouis que les publics féminins, parce que c'est important ces questions de réception, je me réjouis que le public féminin puisse se projeter dans des personnages de ce type-là. Après, je m'interroge sur l'impact potentiel de ces constructions sur les représentations et sur le public qui les reçoit.
Alors, il se trouve que, en tout cas pour Buffy, c'est quand même une américaine relativement classique, dans une ville américaine classique, c'est évidemment pas une ville française, mais il y a la volonté de la transposer dans un univers qui est assez proche de la réalité, non, Sophie Bonnadet ?
Oui, Buffy, il y a ça qui est assez génial, c'est que c'est vrai que c'est la lycéenne comme on l'imagine classiquement dans les séries de cette époque. Enfin, le début de Buffy, il faut ne serait-ce que regarder le premier épisode de Buffy pour ça, parce que ça commence par une scène où il y a un garçon et une fille qui arrivent la nuit dans le lycée vide. Donc soit vous avez déjà vu des films sur les lycées et vous sentez qu'il va se passer quelque chose de mal pour la fille parce qu'il va essayer de l'agresser, soit vous avez déjà vu un film d'horreur et vous sentez que ça va être le méchant et qu'il va l'agresser. Et en fait, c'est elle le vampire, et c'est elle qui le tue. Et rien que ça, en fait, ça joue...
Ça inverse complètement les codes.
Ça inverse des codes. Il faut voir, c'est à la fin des années 90, donc c'était assez chouette de voir... Et oui, c'est un personnage qui, pour le coup, fait un peu Madame Tout-le-Monde dans la série télé. Enfin, on l'a déjà vu dans d'autres séries, donc... Ouais, elle est assez... on peut s'identifier, je pense. Enfin, moi, ado, c'était pas un souci pour m'identifier.
C'est ce qui est intéressant aussi avec ce personnage, Mélanie Boissonneau, c'est que les filles s'identifient, mais les études de l'époque avaient montré que les garçons également s'identifiaient. C'était l'une des premières fois que des garçons s'identifiaient à un personnage féminin.
Oui, alors ça, les garçons s'identifient aussi aux personnages féminins dans les films d'horreur. Hein. Clairement, il y a l'identification, elle est assez fluide en fait. On n'a pas besoin de ressembler à l'héroïne ou au héros pour s'identifier. Mais oui, effectivement, Buffy, il faut dire qu'elle est elle est un peu tout ce qu'on rêve d'être quand on a 15 ans, quoi. C'est vrai que en fait la cible de la série, c'était aussi un teen drama. Enfin, c'était une série adolescente et qui effectivement avait la force comme force de se constituer dans un environnement à la fois extrêmement quotidien. C'est-à-dire que voilà, Buffy, elle rentre chez elle, elle fait à manger, elle s'occupe de sa mère, elle doit gérer ses relations avec sa mère pendant un certain temps, etc. Et en même temps, la nuit, elle combat des vampires. Mais voilà, il y a vraiment ces choses-là qui font que on est dans un lycée, dans une série pour adolescents, garçons et filles. Là-dessus, il y a pas de problème. Et d'où le succès énorme de la série, hein, qui parle aussi beaucoup d'amour, d'histoire. Voilà, avec Angel, avec Spike, etc.
Mais on peut tout de même s'interroger, alors que ce soit Buffy, Wonder Woman ou Captain Marvel, sur le profil de ces comédiennes choisies. C'est-à-dire, elles ont toutes une trentaine d'années, bon alors un peu moins pour Buffy dans la série, elles sont toutes blanches et elles ont toutes un physique absolument irréprochable, Brigitte Rollet.
Ben oui, mais parce que ça, le cinéma reste l'usine à rêve. Et pas un cauchemar. Donc, il faut que le public puisse rêver, et on continue de penser que ce qui fait rêver un public, c'est une normalité esthétique, générationnelle, ethnique, etc. Donc, on reste quand même dans... Alors, il y a quand même des espèces de tentations ou de tentatives plutôt d'ouvrir avec des héroïnes un peu plus âgées, un peu moins conformes, mais le gros de ce qui est produit continue de perpétuer. C'est peut-être aussi les limites de ces héroïnes-là, c'est-à-dire qu'en termes de forme, de morphologie, de classe, de tout ce qu'on veut, on reste quand même sur un terrain connu. Je trouve.
Sur franceinter.fr, Cécile nous écrit « Quand j'étais petite fille dans les années 70, il y avait Fantomette, ne l'oublions pas. Il y avait aussi Ficelle et Boulotte. C'était une représentation de la fille extraordinaire qui m'a fait rêver. » On peut aussi s'interroger sur cette question de la représentation donc de ces femmes blanches, jeunes et belles, parce que on voit des héros masculins, des super-héros masculins, qui prennent un peu plus cher, qui sont un peu plus vieux, qui ont du gras du bide, qui boitent, je pense à l'un des Batman, où on le voit vraiment très mal en point. On n'ose pas encore montrer ce genre de super-héroïne, Sophie Bonnadet.
C'est quand on met une femme, déjà, on considère que c'est une variation par rapport à la norme qui est de mettre un homme. Donc, quand on met une femme, on met une femme jeune, belle et blanche. C'est ça. Quand on met, c'est pareil.
Pour
quand
pas
on
trop
met...
varier, vous voulez dire, pour bah, pas prendre
ça.
De risque.
C'est quand on met un acteur noir, souvent on met un homme et pas une femme, parce que déjà il est noir, on va pas en plus mettre. Enfin, c'est vraiment l'idée. Vous êtes déjà une variation, on va pas non plus. Donc, si pareil, si on veut un personnage handicapé, souvent ce sera un homme blanc jeune et il sera handicapé en plus. Donc, forcément, on reste là-dedans.
On parlait de James Bond tout à l'heure. L'actrice qui va succéder à Daniel Craig est noire.
Oui, là pour le coup, ça fait deux changements d'un coup. Pourtant, on a déjà vu les réactions sur Internet et les réseaux sociaux. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un choix.
Il y a eu des réactions excessivement racistes quand la nomination de cette actrice.
Misogyne raciste, ça a été important. Ouais.
Brigitte Rollet, j'ai découvert qu'il y avait un test qui permettait de juger la qualité des représentations des femmes au cinéma. C'est le test de Bechdel.
Oui, alors déjà, c'est pas la qualité. Je ne sais pas si je dirais la qualité. Et puis en plus, ce test, il a 20 ans. Donc maintenant, il y en a d'autres qui sont un peu plus affinés, parce que là, en fait, en tout cas, c'était le premier outil, même si au départ, c'est pas du tout pensé comme un outil. Hein. Bechdel, c'est une BDiste qui, dans le cadre d'une de ses BD qui s'appelait Dykes to Watch Out For, je ne sais plus comment c'était traduit en français, a proposé, un de ses personnages disait qu'elle n'allait voir que des films qui avaient la règle des trois, c'est-à-dire qu'il y ait deux personnages féminins, qui soient nommés, donc qu'il y ait un nom dans le récit, et qui parlent d'autre chose que des hommes. Et donc, en fait, c'est pas tant la qualité, c'est ce qui permet d'évaluer exactement pourquoi et ce que font les femmes quand elles sont dans ce...
Oui, mais enfin, on se pose pas la question pour les hommes. Il n'y a pas de test qui irait évaluer la qualité ou non des hommes sur le grand écran.
Parce que la norme ne se pense pas comme norme et qu'elle est l'étalon de référence. Donc, elle n'a pas besoin d'être pensée. C'est comme ça, c'est valable pour les questions de genre, de race, de classe, de tout ce que vous voulez, de ou même de génération. Mais en tout cas, pour ça permet en tout cas d'évaluer le décalage. C'est pour ça quand je disais sois belle et tais-toi par rapport à le temps de parole des personnages féminins, ça montre aussi. Et ça rejoint un petit peu quand Sérig pose des questions aux comédiennes dans son documentaire et elle dit est-ce que c'est bien avant Bechdel, et quand elle dit est-ce que vous avez souvenir de films dans lesquels vous avez des scènes avec d'autres femmes, et la plupart des comédiennes disent elles se sont jamais posé la question et elles se rendent compte qu'elles n'ont jamais tourné ces scènes-là. Donc c'est très intéressant parce que aujourd'hui on a le test de Bechdel qui est un non posé sur une question qui a déjà été posée autrement, qui était: qu'est-ce qu'il en est des relations entre femmes, par exemple, dans des fictions ? Et quel rôle ça joue dans le récit, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées par des personnes sur Internet qui regardent justement par rapport aux Oscars, par rapport aux films primés, par rapport à ceci, par rapport à cela, et puis après qui affinent, qui voient que quand il y a des femmes dans l'équipe scénario, production, réalisation, les films passent plus facilement le test de Bechdel. Ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes font des films qui passent le test de Bechdel, mais qu'il y en a un peu plus.
Et à ce sujet,
voilà, c'est un outil. Moi, je prends ça comme un outil.
À ce sujet, vous rappelez dans votre livre, Brigitte Rollet, que la première réalisatrice de cinéma au monde était une femme. Elle s'appelait Alice Guy.
Oui, oui.
Mais
oui,
personne ne le sait. Seuls les vrais cinéphiles doivent le savoir. Grand public l'ignore totalement.
Même d'ailleurs, quand il y a eu toutes ces manifestations au moment de la célébration du siècle du cinéma en 1995, la publication qui avait été produite par le ministère de la Culture de l'époque ne parlait de Méliès, mais pas d'Alice Guy. Et donc si même en France, je veux bien que nul n'est prophète dans son pays, mais si même en France elle est inconnue, c'est qu'il y a quand même un gros problème, ça c'est sûr.
Donc Alice
Guy, c'est l'historiographie, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de ces femmes qui ont fait du cinéma. On voit bien aujourd'hui à quel point on fait ressortir des figures qui étaient là, qui ont été primées, qui ont été appréciées, qui ont eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, on fait comme si, mais oui, mais c'est bien sûr, elles étaient là. Elles ont toujours été là.
Sur l'appli
après,
de...
c'est la place qu'on leur donne.
Sur l'appli de France Inter, Serge nous dit « La véritable égalité, ce sera quand il y aura une super méchante. Le temps des super-héroïnes est-il arrivé ?» On attend toujours vos réactions, vos commentaires, vos questions aussi sur le site ou sur l'appli de France Inter. Il est midi 47 et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine, je
Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Le reste, c'est signé Clara Luciani et vous retrouvez sur le site de l'émission toute la playlist.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Trois invités aujourd'hui pour se poser la question des super-héroïnes au cinéma. Le temps, leur temps est-elle venue? Mélanie Boissonneau, qui est docteur en études cinématographiques, Sophie Bonadet, chercheuse autour de cette question des super-héroïnes et des questions de genre, et puis Brigitte Rollet, qui est professeure à Sciences Po. Et ces messages qui continuent de nous arriver sur l'appli de France Inter ou sur le site. Mais rien nous dit, Wonder Woman représente-t-elle vraiment le genre féminin? Cette super-héroïne est ultra musclée, parle d'une voix grave et froide et cache souvent ses sentiments. Est-ce vraiment le porte-étendard du féminisme, ou bien n'est-elle pas plutôt une version de la femme masculinisée à son paroxysme? Ce message également qui nous arrive de cette jeune dame qui nous dit « Je n'ai pas acheté les albums Martine à ma petite fille, mais ceux de Caroline en salopette entourée d'animaux, conduisant une voiture, des avions et bricolant également. » Et puis Hélène qui nous dit « On parle d'héroïnes super sexy, elles n'ont rien à envier à la plastique des super-héros qui, à ma connaissance, sont rarement petits, maigrichons ou bedonnant, c'est vrai, mais on peut quand même se poser la question des tenues. Alors d'accord, les super-héros hommes comme les super-héros femmes portent tous et toutes des combis hyper moulantes, mais est-ce que c'est vraiment pour les mêmes raisons qu'on fait porter aux hommes comme aux femmes ces combis hyper moulantes, Sophie Bonadet?
Clairement, dans les deux cas, on veut faire ressortir des parties du corps qu'on considère comme importantes. Mais c'est vrai que chez les hommes, ça va beaucoup être les muscles pour montrer qu'ils sont forts et qu'ils peuvent se battre. Donc on fait aussi ressortir une capacité. Là où les femmes, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'elles sont attirantes physiquement. Et pour le coup, la transition musicale était très bien sur Clara Luciani, parce que c'est une chanson d'une femme qui objectifie un homme, qui lui, en fait, parle de son corps. C'était intéressant quand Tim Burton a arrêté les Batman.
D'une partie de son corps.
Oui, enfin, elle parle un peu de tout, mais surtout de son cul, oui. Et quand Joel Schumacher a repris les Batman, Joel Schumacher, c'est un homme homosexuel qui avait fait des plans sur les fesses de Batman et Robin, des plans sur le slip, des plans sur les tétons. Ça avait beaucoup choqué, parce que c'était une esthétique homoérotique, une esthétique où on objectifie l'homme. Et les gens avaient été très choqués, alors qu'en fait, bah, c'était juste renvoyer la balle, quoi. Pour une fois, c'était eux et pas elle.
Je lis un extrait que je voudrais vous faire également écouter, c'est Matrix. Alors, dans l'extrait qu'on va entendre, le héros Neo vient de mourir. Il n'est pas dans un cercueil de verre comme Blanche-Neige, mais enfin, c'est tout comme. Il est assis sur son fauteuil de joueur. Et puis, juste à côté, il y a Trinity, l'héroïne du film, qui se penche pour l'embrasser.
Neo, je n'ai plus peur maintenant. L'oracle m'a prédit autrefois que celui dont je tomberais amoureuse, cet homme serait l'élu de l'espèce humaine. Maintenant, je sais qu'ils ne t'ont pas tué. Je vais te ramener. Parce que je t'aime, Neo. Tu m'entends? Je t'aime, Neo.
Et elle l'embrasse et il se réveille comme un conte de fées inversé, Mélanie Boissonneau.
Oui, alors ça c'est un peu la scène qui cache l'angoisse.
Tout le reste.
Voilà, c'est ce qu'on appelle. Enfin, là, en l'occurrence, cette scène est plutôt positive. On peut se dire, bah voilà, ça inverse les stéréotypes. Mais en fait, Matrix est surtout connu par rapport à son héroïne pour ce qu'on appelle le syndrome de Trinity. Et c'est-à-dire qu'en fait, voilà, Trinity, cette héroïne qui est hyper qualifiée, qui est bien plus compétente, bien plus entraînée, bien plus performante que son héros, que Neo, mais en fait va être reléguée au rang d'amoureuse, voilà. Et puis on la voit bien même sur les affiches, hein, elle est tout le temps en retrait, alors qu'elle est bien plus compétente que Neo. Donc voilà, ça a donné lieu au syndrome de Trinity.
Oui, c'est ce qu'on appelle vraiment dans le cinéma le syndrome de Trinity.
Voilà, c'est-à-dire que une héroïne super puissante, super compétente, en fait, ne va pas être l'héroïne et va se cacher derrière le héros, voire en devenir amoureuse plus ou moins secrètement et ne pas mettre en avant ses compétences qui sont pourtant, on le sait, supérieures à celles du héros.
Et vous voulez dire que, comme ce qu'on peut lire à la fin de certains films, toute ressemblance avec la réalité ne serait purement que fortuite, ou vous pensez qu'il y a vraiment un message ?
Est-ce que je pense que le message global quand même de la société, c'est effectivement le un peu sois belle et tais-toi. Je rejoins tout à fait Delphine Seyrig et Brigitte Rollet. Oui, ça c'est clair, parce que là on parle vraiment d'héroïne. On parle beaucoup d'héroïne, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais si on regarde les chiffres, hein, on est quand même toujours il y a assez peu d'héroïnes. Et il y a une héroïne qui est intéressante par rapport à ça, c'est Jessica Jones dans les super héroïnes, qui pour le coup est effectivement une ancienne mannequin blanche. Etc., l'actrice, mais elle refuse de sourire, elle refuse le vêtement sexy, etc. Donc il y a quand même des rébellions qui se mettent en place parmi les héroïnes, mais effectivement, il vaut mieux qu'elle ne parle pas trop fort, qu'elle soit pas trop forte quand même.
Il n'empêche que l'engouement dont font preuve, ou alors peut-être la compétition dont font preuve les grands studios d'enregistrement, on pense évidemment à Disney qui a voulu aussi continuer dans la lignée de Wonder Woman faire son héroïne, c'est quand même plutôt une bonne chose pour le cinéma et la représentation des femmes super-héroïnes au cinéma. Sophie Bonnadet.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y aura des... C'est un avantage dans le sens où effectivement il y aura plus de personnages, les gens en verront plus, et que souvent, comme il y a une question de représentation, il y a plus de femmes qui vont être aussi investies dans ces projets, donc ça va donner plus de travail. Après, je pense qu'il faut juger sur le papier ce que ça donne. Et pour revenir vite fait sur Matrix, effectivement, le syndrome de Trinity, c'est hyper intéressant. C'est aussi intéressant de voir, puisque les sœurs Wachowski veulent reprendre Matrix, que ça va donner aujourd'hui, parce que clairement, ce qu'elles pouvaient faire quand elles ont fait les premiers Matrix, c'est pas ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne comme elles y retournent maintenant.
Sur franceinter.fr, Rachel nous dit « Mon fils de 7 ans m'a demandé si je connaissais un super-héros. J'ai répondu oui, moi, les mamans sont des super-héros, et le papa a confirmé. Louis qui nous dit dans les films d'animation de Miyazaki, le personnage principal est presque toujours une femme. Et puis enfin Catherine, petite fille, je m'identifie à Laura Ingalls, la petite maison dans la prairie. Mais ma cousine du même âge jouait à être Marie, la grande sœur aveugle. Malgré son handicap, on pouvait avoir envie d'être cette jolie fille sage. Pareil chez Sophie de la Comtesse de Ségur, on était sur des filles hors normes et pas sages avec le handicap, les bêtises et la transgression. Mélanie Moissonneau, j'ai lu dans votre ouvrage que les contes de fées, alors à propos des contes de fées, la postérité évidemment a retenu Grimm ou Andersen, Perrault, mais ce sont des femmes qui avaient lancé le mouvement.
Oui, effectivement, ce sont des femmes, mais c'est ce qu'on disait sur l'idée des auteurs, que ce soit des réalisatrices ou des auteurs, des écrivaines, des autrices. Il y a toujours cette idée de que plus les femmes sont impliquées dans la création, plus on a de personnages féminins aussi au final. Ça, c'est statistiquement prouvé. Donc effectivement, oui, les contes de fées ont été à l'origine écrits par des femmes.
Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Le débat de midi, c'est fini, mais on se retrouve demain.